Thibault, 1 rue de la Cisoie. Monsieur et Madame Soares da Silva, 1 clos Charlemagne. Monsieur et Madame Lamidio, rue Saint-Nicolas. La SCI Domino pour une vente sur la main fermée, route de Saint-Sauveur. Pauquelin Hydraulix, route de Compiègne. Consort Lefebvre, 18 rue Jean Jaurès. Madame Pio, 2 rue du Port. Monsieur Daplon et Madame Faris, 13 avenue René Firmin. Monsieur et Madame Ducommun, 2 rue de la Cisoie. Et Monsieur et Madame Giraud-Marcel, 7 rue Saint-Nicolas. Alors, point suivant, les décisions du maire numéro 7 et numéro 8. Donc, décision numéro 7. Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées au maire, vu le marché à bon de commande conclu par la centrale d'achat public de l'Oise Capoise, 1 rue Cambry, 60-024 Beauvais-Cedex, pour les travaux d'aménagement et de grosse rénovation des chaussées et de leurs dépendances, décide de signer ce jour le marché MSVO 15-26 d'un montant de 52 597,50 € hors taxes, 63 117 TTC, prix révisable selon la formule du marché. Les travaux seront exécutés par la société Nicolas Nord Picardie, agence de Senlis, 13 rue Gaston Parseval, 60-302 Senlis, titulaire du marché. Alors il s'agit évidemment de la réfection de la rue Gustave Bouffet. Voilà. Donc 52 000 € pour cette réfection, avec donc la commission s'est réunie hein, sur le plan de la réalisation. Il y a donc un fossé central, enfin un écoulement des eaux pluviales centrales, un caniveau central, pardon, avec du macadam de chaque côté, le caniveau étant lui en pavé. Voilà, il y avait plusieurs choix, c'est finalement le choix qui était retenu par la commission. Après vote, on a mis les pavés au centre, qui rappelle que la rue de centre-ville est en pierre, voilà, avec des constructions en pierre un peu partout. Décision numéro 8-2015. Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le code des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées au maire, décide de signer ce jour le marché de travaux relatif à la mise en sécurité du quai du port fluvial de Verberie avec l'entreprise Société Brésillon, 128 rue de Beauvais, 60-280 Marny-les-Compiègne, pour un montant de 29 470 € hors taxes, 35 364 € TTC, passé selon la procédure adaptée. Alors ces travaux qui nécessitaient notamment un dossier loi sur l'eau, qui nous est revenu il y a peu de temps, vont démarrer... Voilà, aux alentours du 25 octobre, il y en a à peu près pour 2 semaines, si je me souviens bien. Avec de bonnes conditions météorologiques, 2 semaines de travaux. Il s'agit de mettre en sécurité donc la partie du port qui est dans l'eau, afin d'éviter que lors des crues de cet hiver, on ne se retrouve avec la partie du port au fond de l'eau et qu'on ne doive payer un dragage complet AVNF. Maintenant, tout ça est réalisé effectivement dans l'esprit des travaux qui vont suivre. Hein, et pour lequel, là, il va falloir se réunir. Il y a l'adjoint donc à l'urbanisme René Brouillard qui monte en ce moment un groupe de travail pour justement réfléchir exactement à ce qu'on va faire sur le port de travaux de plus grande ampleur. Voilà pour ces deux décisions. Questions, commentaires? Très bien, je poursuis. Alors, le point suivant. Vente de l'immeuble de la rue des Remparts. Donc, nous avions, au moment du débat d'orientation budgétaire, nous en avions parlé. Nous avions dit qu'effectivement, et je crois qu'on était tous d'accord pour dire que la mairie n'avait pas, ou la commune n'avait pas vocation à être quelque part bailleur de locaux. Il se trouve que dans cet immeuble qui a été construit en 1972, depuis 1972, il n'y a eu, à ma connaissance, aucun travaux d'ampleur qui ait été entamé ou réalisé. Donc aujourd'hui, les locaux étaient quand même dans un état assez triste. Je crois qu'on était à un moment où il fallait de toute façon soit entamer quelque part des travaux, soit chercher à le vendre. On avait dit au moment du débat d'orientation budgétaire qu'on chercherait à le vendre. On a donc travaillé sur ce sujet, on y travaille depuis presque maintenant un an à cette idée. Et on a travaillé sur cette idée avec la société Picardie Habitat. Donc aujourd'hui, Picardie Habitat a évidemment demandé tous les renseignements possibles, inimaginables. Il a visité les locaux. Il a également non seulement visité les locaux, mais il a fait réaliser des expertises. Il a demandé effectivement ensuite tout un tas de renseignements sur les occupants. Et il est arrivé pour nous faire une proposition, sachant qu'il y a des travaux qui sont quand même très lourds à réaliser. Cette proposition est une proposition pour un montant de 160 000 euros.
Non, travaux.
Pardon ?
Pas les travaux. La cession.
Pardon, alors je me suis. J'ai fait un raccourci dans mon discours. Les travaux. Alors, des travaux, ce qu'on peut dire, on peut détailler après hein, dans vos questions, mais il y a des travaux qui touchent à tout ce qui est remise aux normes. Aujourd'hui, par exemple, le bâtiment est un bâtiment qui est, du point de vue énergétique, classé G. Donc là, il s'agit de le ramener à un classement B. Donc ça, c'est un des points. Dans le bâtiment, il y a de l'amiante. Donc là, il y a des plans de désamiantage à faire. Il y a aussi, évidemment, depuis 1972, une remise aux normes électriques. Voilà, il y a la toiture également, qui est prévue, pas immédiatement, mais... dans les années qui viennent.
Les menuiseries, les fenêtres.
Merci Francis. Les menuiseries, les fenêtres. Enfin, ça fait partie un peu de la rénovation énergétique, tout ça, mais aussi de...
Et combien de locataires dans cet appartement ?
Alors, cet appartement qui fait 440... Enfin, ces appartements qui font 447 mètres carrés de surface au sol, il y a 6 logements à l'intérieur de...
Ça fait des grands... Des logements assez grands.
Alors il y a tout. Alors attendez, je retombe sur mes notes. Je vais vous dire ça. Il y a deux. Il y a en fait. Attendez, je cherche exactement. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Tac, j'ai noté ça. Il y a deux F5. Il y a un T2. Il y a un T4 et il y a un T3. Voilà. Alors, en reprenant le cours de ce qui nous a été dit dans la description, effectivement, amiant, performance énergétique, il y a une bonne installation de chauffage qui est en place, le gros œuvre est sain, donc c'est ce qui nous permet de vendre le bâtiment. Couverture en tuiles, donc là on arrive un peu au bout, il va falloir le refaire dans une dizaine d'années, je pense. Picardie Habitat s'engage également à résidentialiser, c'est-à-dire à clôturer toute cette cet immeuble, avec portail. Bref, il y en a environ pour 500, c'est indiqué sur le papier, alors 538 000 euros, dépenseront 538 000 euros de travaux. Voilà, pour tout ce qui est remis aux normes.
Ouais, mais enfin, même s'il y en avait pour 300 ou 350 000 euros, est-ce qu'on a les moyens de faire?
Non, mais on peut peut-être demander un cadeau qui se garde aussi. Il peut y avoir plusieurs avis.
Oui, enfin là, c'est déjà pas facile sur ce genre de, je pense, de logement.
Alors moi, autant je suis d'accord pour le vendre, autant là, les domaines sont quand même de 435 000 euros.
Oui.
Autant les domaines, ils sont restés exactement une demi-journée. Ah non, mais moi, tu as vu des domaines. Tu as vu des domaines après le champ de cours de Compiègne. Le champ de cours qui a été au tribunal, hein, il avait été acheté au prix de la vie des domaines.
Hein. Ouais, oui, oui.
Non, la preuve, c'est qu'il avait été acheté au prix de la vie des domaines. Ça ne veut même pas dire qu'il y a eu quelque chose. Bon, donc ça a été au tribunal, malgré que c'était. Là, on est à un tiers du prix.
Alors,
autant moi je suis d'accord pour le vendre, mais 160 000 euros, ça fait des appartements à 26 000 euros, 75 mètres carrés. 26 000 euros,
c'est bien payé au vu de l'état du bâtiment.
Pour faire la plomberie, il y a tout à refaire dedans.
Non.
Alors, à l'heure actuelle, il rapporte combien?
Alors, à l'heure actuelle, il nous coûte tous les ans de l'argent.
Bon. Et depuis longtemps.
Le problème est réglé. Hein.
Avec le foncier, depuis aujourd'hui, on en a pour...
Non, mais y a rien qui rentre. Il n'est pas là. Si ça avait été une société privée qui l'est, est-ce qu'il gagnerait de l'argent? Donc, c'est tout. Là,
est-ce que...
Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une consultation.
Oui, mais...
Moi, il n'y a qu'une c'est... consultation. Il pourrait y avoir des consultations de privés qui pourraient aussi racheter peut-être le double du prix. Hein. Parce que 160 000 euros, c'est quand même un prix bas. Hein. 26 000 euros, le... Bon, alors après, il y aura le contrat de légalité, parce que c'est ça, derrière, le contrat de légalité.
On peut le vendre à 430 000, hein. On va encore perdre de l'argent tous les mois pendant encore X temps.
Non,
et puis là, à la fin,
il y a des locataires qui coûtent cher.
Je pense que. Il n'a pas les mêmes soucis, attendez, un privé n'a pas les mêmes problèmes qu'une commune. Parce que vous avez l'obligation de les reloger. De toute façon, vous les direz, vous avez l'obligation de les reloger. Un privé n'a pas l'obligation de les reloger. Hein.
C'est ça.
C'est là la différence. C'est ça qui pèse. C'est ça qui pèse dans la balance. Et c'est pour ça que, autant moi je suis d'accord pour le vendre, autant 160 000 euros, je trouve que c'est un prix bas et qu'il faudrait. Consulter voire même des privés, pour pouvoir être sûr que c'est le bon prix.
Il y a deux.
Moi, je suis certain que 200 ou 250 000 euros, vous avez des gens qui rachèteront.
Mais comment on ne peut pas, M. Florissi, c'est un privé à 250 000, puisque la vie des domaines nous oblige à plus ou moins 10% du prix qui a été fixé. Alors, trouvez-moi quelqu'un qui va l'acheter 250 000 alors que réglementairement, on ne peut pas.
Le plus simple pour pas qu'il y ait d'histoire, et qu'on ne vous reproche rien, vous faites une vente à la bougie, hein, et le plus offrant, il achète. Et après, l'autre, il a 8 jours pour se renchérir. Parce que la Picardie Habitat, puisque du temps des premiers, il fallait payer même les voiries. Après, on leur a donné les terrains, les premières fois. Et payer les voiries. Après, ça a été niais. Donc, ils ont acheté les terrains. Ce qui est totalement différent, mais ils ne voulaient pas les acheter. Et sur le rachat, ils sont toujours à des prix vraiment extrêmement bas, parce que d'autant plus que c'est une société d'économie mixte.
Alors, moi je me souviens du débat d'orientation budgétaire.
Mais je suis entièrement
d'accord. Avec les locataires qui ne payent pas leur loyer, et bien
tient.
Je suis entièrement d'accord. Le seul problème, c'est de n'avoir qu'une proposition et de ne pas
avoir fait la proposition. Picardie Habitat, en fait, a expliqué pourquoi il le vendait à ce prix-là. C'est-à-dire que... Non, mais je vais expliquer quand même. Voilà, aujourd'hui, tout le monde n'est pas au courant. En fait, le prix des travaux ajouté au prix de l'immeuble, ça leur donne la rentabilité minimale pour pouvoir louer au prix des PLAI et des PLUS. Voilà, c'est ça en fait. Le calcul, il a été fait comme ça. Ils ont fait l'équilibre de telle façon à ce que les gens qui seront dedans, ce seront des logements aidés, et il faut qu'ils équilibrent leur balance. Donc à partir de là, ils ont regardé le montant des travaux, ils ont regardé le prix, et ils ont équilibré à ce prix-là. Voilà la façon dont ça a été calculé. Et on ne peut pas le calculer autrement, c'est vrai. Alors certes, c'est évident que ce n'est pas un prix élevé.
J'aurais pu vous mettre avec 20 000 euros, moi. Parce que c'est pas ce qu'ils ont proposé, mais...
Non, quand même pas.
Ça ne devrait pas gêner non plus de les mettre à 80 000 euros en disant, mais écoutez, vous nous fiez pour un gros symbolique, parce que...
Ouais. Je me souviens très bien du débat d'orientation budgétaire. Lorsque l'on a abordé cette question, vous nous avez souhaité bonne chance pour le vendre. Hein, en nous disant, allez-y toujours, vous verrez, bonne chance. Eh bien oui, on y est allé, et on l'a vendu, ou du moins on vous propose de vendre.
C'est pas bradé, hein.
Dans l'état où il est.
Moi, ce prix-là, j'en veux pas. Hein.
Non, moi non plus.
Surtout avec vous passez une annonce,
allez
voir
s'il
y a
des problèmes. Et ensuite, il y a... Et ensuite, il y a un deuxième... Il y a un deuxième point, c'est que on ne regarde pas uniquement que le prix, parce que si on le revend à un privé, qu'est-ce qu'il fait de cet immeuble? Là, il y a un engagement de rénovation complet, et ça compte aussi pour la ville, d'avoir dans cet endroit quelque chose qui soit refait correctement à côté des écoles. C'est aussi un point important. Ça fait partie de ce qu'on doit prendre en compte.
On peut avoir aussi des engagements.
Oui.
Les engagements depuis Picardie Habitat sur la rénovation de bâtiments, excusez-moi, mais c'est pas à eux auxquels je prête confiance. Hein. Moi, maintenant, j'ai dit ce que j'avais dit.
Enfin, Picardie Habitat est venu, j'aurais peut-être dû commencer par là, ils sont venus d'ailleurs à deux reprises nous expliquer tout ça, dont la dernière fois devant la commission des finances, qui avait été convoquée pour cette occasion, et la commission des finances, à l'unanimité, a donné un avis favorable à cette vente au prix qui était indiqué par Picardie Habitat. Voilà, ça mérite d'être aussi mentionné. Alors évidemment, je comprends qu'on puisse en vouloir toujours plus. Ceci dit, des affaires de loyer, de personnes à reloger ou à sortir de logement, c'est très compliqué. Je voudrais rappeler aussi que dans cet immeuble, il y a des gens qui sont logés depuis très longtemps sans aucun bail, que la moyenne des loyers, ça doit tourner à moins de 200 euros quand on fait la moyenne des loyers, 180 et quelques euros par mois. Et bien reprendre la situation dans cet état-là, même pour un bailleur social, je pense que c'est pas facile. D'ailleurs, là, il y aura dans la suite, et si vous donnez votre accord à ce qu'on continue sur ce processus, ça voudrait dire donc qu'on va effectivement recevoir, ou du moins rassembler, les locataires qui sont là-bas, pour leur expliquer que les prix de leur loyer vont monter, parce qu'une fois la rénovation faite, les prix des loyers vont monter, conformément d'ailleurs à ce qu'indique la loi, ou je ne sais pas si c'est la loi ou l'arrêté, mais ce sont des prix conventionnés. Hein, donc les prix vont monter de location, compensés en partie ou en petite partie par l'APL, l'aide personnalisée au logement. Ça devrait se passer comme ça. Le calendrier, ce serait vente au premier trimestre 2016, après bien sûr que vous ayez donné votre accord, si vous le donnez, sachant qu'entre les deux, Picardie Habitat, lui, doit demander un certain nombre d'accords pour obtenir des prêts qui sont également des prêts, comment on dit, bonifiés, hein, auprès de la Caisse des dépôts. C'est la Caisse des dépôts qui finance, hein, auprès de la Caisse des dépôts. L'étude des travaux se ferait au premier semestre 2016 et le début des travaux, deuxième semestre 2016. Voilà, il y en a à peu près pour, ils évaluent qu'il y en a à peu près pour 6 mois de travaux sur place au niveau de l'immeuble des remparts.
Et le montant ?
Des
travaux ?
538 000 euros.
Ah oui. Il y en a. On en a à peu près pour 10 000 euros d'impayés en ce moment.
Ah bah oui. Comment ? Oui. Pour l'instant, Jean-Claude, pour répondre à ta question, et Dieu sait si Patrick s'en occupe régulièrement, il y a des relances. Je rappelle que les relances, ce ne sont pas nous qui les faisons, hein. Ça passe via le trésor public. Comment ?
Au bout de trois relances, je ne sais pas, moi, tu payes pas les impôts. Il n'y a pas d'avis de.
Non, ça ne se passe pas comme ça avec le trésor public, malheureusement.
On n'est pas. Oui, oui, ça ne se passe pas comme ça dans le trésor public, avec le trésor public. Ah bah oui. Oui, 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 oui. Ceci dit, les impayés, ils remontent à un certain temps, oui.
On a déjà demandé la présence d'huissiers, ils les ont jamais fait bouger. Alors. Très complexe.
Mais c'est là où on se Jean-Claude, c'est là où on se rejoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bailleur social ou bailleur tout court, c'est un métier.
Ça peut être qui non, c'est la carabine. Je ne comprends pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de se bagarrer pour ça, et qu'on a laissé des gens en place depuis des années. Il n'y a pas un problème quand même.
Il y a un problème.
Le premier problème quand on a des locataires. Le premier, quand celui qui fait de la location aujourd'hui, hein, son.
Tout le monde parle.
Non, ils ont été admis. Comment ils ont été. Il n'y a pas de bail, il n'y a rien.
Alors, je le rappelais tout à l'heure, effectivement, pour un certain nombre de locataires, il n'y a aucun bail. Donc, ils sont rentrés comme ça à une époque. Voilà. Ils sont rentrés sans bail. Je crois qu'il y a 2 bails sur 6, c'est ça, madame ? Voilà. 2 bails sur 6 qui ont été réalisés. 2 baux, pardon, excusez-moi, merci. 2 baux sur 6 qui ont été réalisés. Et ensuite, je crois que aujourd'hui, bailleur, la première des choses, quand on est bailleur dans le privé, c'est de bien choisir ses locataires qui rentrent. Parce qu'après, de toute façon, quand on en arrive à des gens qui ne paient pas, etc., c'est de toute façon, qui qu'on soit, qui que ce soit, très compliqué de faire sortir les gens. On le voit tous les jours. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que nous, on n'est pas armés pour être bailleurs. Les bailleurs, ils ont des experts juridiques qui connaissent parfaitement ces affaires-là. Et derrière, ils savent les mener. Et c'est un vrai métier, surtout avec la complexité, notre complexité juridique.
Qu'on
ait
laissé faire.
Alors on les a pas laissés trop tranquillement là. Hein. Nous, depuis qu'on y est, on a quand même fait rentrer de l'argent hein, sur ces affaires-là. Mais il reste toujours des impayés. 10 000 euros, c'est ça que tu dis, hein, à peu
un
près.
Un petit peu plus.
Un petit peu plus.
Juste un point de droit, ce qui mérite d'être précisé, parce que ces logements, qui sont autrefois des logements de fonction d'instituteurs,
oui,
ont été désaffectés, parce que tant qu'ils sont toujours considérés comme des logements publics, on ne peut pas les vendre comme ça. Il faut s'assurer qu'ils ont été désaffectés au préalablement et qu'ils sont tombés dans le domaine privé. Est-ce que c'est le cas, Madame Jablot ?
C'est vrai,
je pense
qu'ils sont plus dans le domaine de l'éducation
nationale.
Non.
Il faudra vérifier s'il y a eu des affectations des logements.
Je ne sais pas.
Si, ils étaient attribués.
Initialement.
Mais ça.
Mais l'affectation, elle existe toujours peut-être.
Bon, on s'assurera qu'effectivement, il n'y a plus cette affectation-là. De toute façon, ça ne devrait pas être bien difficile de changer de statut, puisque l'éducation nationale ne revendique plus du tout cet aspect-là. Bien.
Question, combien nous coûte le par an ce bâtiment ? Parce que ça ne nous rapporte pas, ça nous coûte.
Non, ça nous coûte tous les ans.
Non. Le foncier, les assurances,
le foncier
et les travaux, qu'on fait les menus travaux qui sont faits.
Et le chauffage qui n'est pas sur lequel on n'a pas un retour à 100%. C'est ça ? Oui, attendez, monsieur Leblanc, allez-y.
Rien qu'en consommation, de toute façon, il nous coûte plus cher que ce que nous rapporte.
S'il n'est pas isolé,
ça dure depuis un certain temps.
Vous ne payez pas le chauffage ?
Alors, c'est une partie, si, si. Il paye une partie.
Une partie.
Mais je ne comprends pas le chauffage et le chauffage.
On va couper le chauffage maintenant.
C'est pas
vu. On l'a fait deux jours, on n'a pas fait.
Comment ?
Chauffage au gaz collectif.
Mais le chauffage, c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Picardie Habitat disait le système de chauffage, il est correct, il est bien. Le problème, c'est qu'il est ouvert à tous les vents, ce bâtiment.
Les travaux, ça reste combien ? Moi, c'est le prix d'achat et sur le fait qu'on n'est pas élargi plus que Picardie Habitat. C'est par rapport à d'autres sociétés, par rapport à d'autres sociétés d'achat, par rapport à des bailleurs privés, qu'on n'ait pas fait une consultation plus large.
Vous savez, aujourd'hui, Patrick, tu dis ça, mais c'est dommage de ne pas être venu à la commission. Voilà, il aurait fallu en parler en commission. Voilà.
Aujourd'hui,
ouais, moi, je comprends bien, mais bon, voilà, aujourd'hui.
Ouais. J'irais même plus loin, monsieur Fleury, c'est que vous êtes. Enfin, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est gentil de vous écouter, mais vous donnez une leçon de morale parfois. Non, mais à un moment donné, il aurait peut-être fallu se poser la question, peut-être quand vous étiez à la tête de la commune, pour vous savoir si le bâtiment était encore aux normes ou était. Parce que vous aviez quand même conscience de ce bâtiment.
Enfin, bon.
Aujourd'hui, il y a des choix qui
sont. Il y a quand même 6 appartements, 400 bails, 400 baux. Ça coûte de l'argent. Il n'y a quand même pas besoin d'être très, très. Enfin, on passe devant le bâtiment, on voit quand même qu'il n'est quand même pas en très bon état. Donc, à un moment donné, il faut quand même prendre une décision. Alors, c'est bien gentil de nous dire aujourd'hui, il faut peut-être une deuxième consultation, c'est pas cher. Oui, tous les mois, on perd de l'argent, et puis on y va, et puis voilà.
Bon.
Ça dépend. On peut avoir une belle proposition, bien sûr.
Par rapport à 435 000, c'est le tiers du prix des domaines.
Alors,
mais les domaines, eux, ils sont au prix du marché général, même. Ouais. Alors, ils prennent en considération que l'État de vétusté, en plus, le prix des
domaines.
Mais en général.
Je pense. Oui, franchement, là. Oui, à la vue de ce prix.
Non, celui qui est venu, c'est un rigolo.
Les domaines, sur
ce... 430 000 sur cet immeuble-là, il ne les vaut pas. Ah, franchement, vous êtes allé voir, vous verrez.
Non, les domaines sont passés. Dans une commune, c'est les domaines qu'on fait passer. Si, on a toujours le droit. Hein. On a toujours le droit. Mais on a fait passer les domaines.
D'accord.
Hein,
c'est-à-dire
qu'on
a un avis. Oui. Je pense que vers lui, dans un endroit qui ne cherche pas tout le temps pour sa vie, ça vaut
pas. Nous, là, sur ce qu'on a vu du bâtiment, on considère qu'effectivement, on est au prix. Quand on fait la somme des travaux, la somme du bâtiment, on considère qu'on est au prix du marché. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bâtiment, il va y avoir une réfection totale du bâtiment. pour le centre de Verberie, c'est quand même très intéressant. Donc on continue. Surtout que en ce moment, on a une période où on peut en parler, mais nos finances vont nécessairement baisser. De toute façon, ça fera faire une source d'économie annuelle, déjà, puisque ce bâtiment nous coûte de l'argent. Et on ne pourra pas en tirer plus. Enfin, faut, à un moment donné, il faut être raisonnable. Oui, oui. Mais je me souviens, encore une fois, du débat d'orientation budgétaire. Vous avez dit bonne chance. Bah, on y est arrivé.
Moi, j'ai toujours dit que j'étais d'accord pour le
vendre. Oui, oui. Il y a un moment où il faut prendre une décision, quoi. Voilà. Il ne s'agit pas de dire peut-être que... voilà, il faut un moment ou un autre... se décider de faire.
Oui. Voilà, je pense que chacun s'est exprimé. Donc, on va passer au vote. Donc, ce vote qui va se faire au vu de l'avis favorable de la Commission des Finances. Je propose donc à l'Assemblée de vendre la parcelle cadastrée section UC 128 pour partie comprenant un immeuble 6-19 rue des Remparts pour un montant de 160 000 euros. À la société Picardie Habitat qui assurera à ses frais la restauration totale de ce bâtiment et la mise aux normes de ce parc collectif et de locatif, et de m'autoriser à signer l'acte de vente à venir. Voilà. Alors, qui est contre ? 3.
Moi, je ne suis pas contre la vente, je suis contre le prix.
Je m'explique, hein, simplement parce qu'il n'y a pas au moins de consultation, et parce que je ne peux pas croire qu'il y ait quand même le gars des domaines, il soit planté à ce
moment-là. Bah. Madame Gilbert, je sais comment il est
étudié. Mais
c'est ça, Francis,
mais on dit là,
c'est votre avis.
Ouais, voilà, bon,
okay.
Je m'explique pourquoi.
Ouais, c'est terminé.
Attendez, on vote. Donc contre, 3. Qui s'abstient ? 1, 2, 3. 3 qui ? 1, 2, 3, 4. Pardon, vous levez la main s'il vous plaît, j'ai mal compté. 4 abstentions. D'accord. Donc qui est pour ? D'accord. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Non, le nombre ne va pas. On n'a pas le total.
Alors, les contre, il y en a 3.
3.
Relevez la main, s'il vous plaît, que je ne me trompe pas.
Vous n'avez pas de pouvoir, Mme Poulet.
Non.
3.
Les abstentions. Levez la main. 4. Donc, on devrait avoir des pour. Bah, relevez la main.
Il y a des pouvoirs.
Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on oublie de se compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je m'étais compté deux fois, mais ça se fait pas, il paraît. Bon, allez, voilà, 18. Ok, point suivant de l'ordre du jour. Externalisation de la paie. De la paie. Alors, je cherche mon document. Je suis un peu gêné. J'aimerais bien retrouver le mien, mais je ne l'ai pas. Bon, je vais essayer de me souvenir des chiffres tout en allant. Donc, on est dans le cadre d'une simplification administrative. Voilà, à la fois, aujourd'hui, on a un organisme qui nous permet d'externaliser la paie, qui est la paie, qui est le centre de gestion. Et puis, également, il est nécessaire, surtout plus que jamais, d'anticiper les évolutions du secrétariat de mairie, tant au niveau de ses agents que des missions qui lui sont confiées. Donc, les éléments suivants, la complexité croissante des tâches induites par la confection des payes mensuellement et lors de la déclaration des données annuelles en fin d'année, 50 fiches de paye et indemnité par mois, agent et élu. Voilà. Nécessité de sécuriser la paye. Départ en retraite à l'horizon 2017 de l'agent assurant la paye aujourd'hui. Difficulté de recrutement lors de ce départ à la retraite pour trouver un agent polyvalent spécialisé paye et urbanisme nous ont conduit à mener une réflexion sur l'externalisation de la paye. Le centre de gestion de l'Oise qui assure un service de paie à façon pour les communes qui souhaitent en bénéficier pourrait nous assurer cette mission pour un coût de 30 euros pour la création du dossier de chaque agent. Donc ça, c'est un coût unitaire une fois pour un agent. Et ensuite, 4,50 euros par mois pour l'établissement du bulletin de paie et 4,50 euros par an pour la fiche individuelle de déclaration de salaire. Ce qui fait, en termes de coût, alors c'est là où j'aurais bien aimé avoir ma fiche, qui doit être quelque part, mais je vais parler de mémoire, on va me corriger après. Vous avez les chiffres. Donc, pour ça, donc, la phase initiale de création des dossiers coûte 1500 euros. Et ensuite, la phase régulière, donc 4,50 euros 13 fois, puisqu'il y a 12 fois pour l'établissement de la bulletin de paie, et une fois pour la fiche individuelle de déclaration des salaires. Donc ça fait 2925 euros par mois. Ce qui fait que la première année, nous paierions 4425 euros la première année. Et les autres années, bon, sous réserve que les tarifs restent au même niveau, 2225 euros par an. Voilà. Ce qui n'est pas un prix exagéré, loin de là, sachant qu'au niveau du secrétariat, on a des missions supplémentaires en plus qui arrivent, je ne dis pas tous les jours, mais qui arrivent régulièrement, l'État, comme chacun sait, transférant une partie de ses charges. De plus, sur ces sommes-là, il y a quand même des choses qui vont venir en déduction. Jusqu'à présent, le centre de gestion va assurer le traitement des données de fin d'année. Jusqu'à présent, c'était fait par l'ADICO, ça nous demandait 679 euros. Donc des sommes que je vous ai indiquées, il faut déjà retrancher 679 euros, à la fois des 4 425 qui seront à payer la première année, et des 2 925 qui seront payés les autres années. Et il faut même retrancher encore la maintenance du logiciel P. Bon, ça, je ne pense pas que ça aille très loin, mais c'est encore une somme qui va venir en déduction de ce que l'on va devoir verser, enfin, de ce que ça va coûter, finalement, à la commune. Voilà. Oui ?
Vous avez dit tout à l'heure, il était pris 4,50 euros par mois pour
l'établissement du bulletin de paye. Oui. Vous me sortez
2925
euros à l'année.
Oui.
Je ne comprends pas comment.
C'est par fiche de paye. C'est par agent.
Par agent par mois.
Bon. D'accord.
4,50 euros 200, par agent par mois. Il y a 50 fiches.
Sur 13 mois, ça fait combien?
12 mois.
13 mois.
45, 50,
j'ai pas fait le calcul,
on est en train de le faire, là.
4,400, c'est ça? C'est ça? 4,50 par 50, à peu près, ça fait en gros...
Ça fait 2000.
200 par mois par 12, ça fait 2400, enfin, on est dans les normes.
60 euros par mois, par agent. D'accord.
Comment? 60 euros par mois, par agent?
Par an.
Ouais. Par an.
50
50
par
jour,
je vais
refaire
le calcul.
4,50 par 13, ça fait
2925.
Voilà.
Moins gros. 50. C'est même pas par 13, parce qu'il y a 12 de prix. Il y a 12 fiches de paye.
C'est sur 13 mois.
D'accord, c'est sur 13 mois.
Donc c'est bien 2925. Donc chacun, vous prenez.
4,50 par 13.
Oui, en plus je l'avais fait de mon côté, ma fiche. Bon, voilà, on est d'accord. Bien, toujours est-il que bon, le prix payé pour l'externalisation, là, c'est pas cher. Hein, et ça va nous permettre ensuite le départ de l'agent qui fait ça en ce moment, son départ en retraite. On aura quand même une simplicité de recrutement et peut-être du fait que la personne n'est plus obligée d'avoir ses compétences, eh bien un coût salarial moins élevé.
Vous n'aviez pas la remplacer.
Merci. Alors attendez, 2900.
Vous pouvez supposer, comme c'est pas alors, la question.
Que l'agent en question ne fait évidemment pas que la paix. Il s'occupe notamment de tout ce qui est urbanisme. Il s'occupe également de la gestion du cimetière. Plus encore d'autres choses, j'imagine. Hein. Les actes d'état civil, pardon. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'urbanisme nous prend de plus en plus de temps. C'est de plus en plus complexe à traiter. La ville, tous les jours, s'étend un peu, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de travail à faire. Moi, je peux vous dire que je constate au quotidien que le secrétariat d'aujourd'hui est taillé ric-crac. Oui ?
À combien de temps estimez-vous par mois combien de temps met l'agent pour faire le fiche de paye ?
3 jours, à peu près. À peu près.
3 jours quand il n'y a pas de problème.
Oui, quand il n'y a pas de problème.
Après 3 jours,
c'est un logiciel quand même.
Oui, mais 3 jours multipliés.
Il y a 50 agents.
Il y a l'URSSAF derrière, il y a des déclarations d'URSSAF, il n'y a pas que ça.
Tous les variables, tous les
non, c'est du boulot, c'est cher. Il y a le salaire qui vient tout à l'heure. Il y a le suivi. Non, mais c'est au moins 3 jours. Ouais. Et à plein temps.
Alors le point qu'il y a derrière aussi, c'est qu'aujourd'hui, la complexité juridique de toutes ces affaires, évidemment, ce serait bien le seul domaine où ça ne devient pas de plus en plus complexe. Là-bas, ils centralisent effectivement la paie. Ils ont notamment celle de Touche-Chantilly, par exemple, qui a externalisé la paie. Ils ont donc un soutien juridique et des agents qui s'occupent de ça, qui sont extrêmement compétents. Donc ça nous apporte aussi une sécurité juridique. Voilà. Autre question ? Non ? Chut. Dans le sens où on parle à tout le monde, on parle pas entre soi. Les remarques, les questions.
D'autre part, il y avait effectivement les mises à jour des logiciels en permanence.
Oui, c'est ce que. La maintenance. Et les 679 euros qu'on payait déjà tous les ans à la DICO pour faire une partie du travail qui va être fait dans ce cadre-là. Bien, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Alors, on prend donc la décision d'externaliser le pays de paie, le service de paie, pardon, de confier cette mission au centre de gestion de l'Oise qui mettra à disposition de la commune le personnel nécessaire et de m'autoriser à signer la convention à venir avec le centre de gestion de l'Oise pour cette affaire. Désignation de membres pour l'association foncière. Alors, j'ai eu des éléments dernièrement qui m'ont conduit à changer un certain nombre de choses. Voilà. Que je le trouve. Oui, c'est là. Donc, l'association foncière de Verberie, dont j'ai appris l'existence il y a quelques temps, mais il n'y a pas très longtemps. Cette association a été créée à une époque pour s'occuper d'une toute petite partie de Verberie qui était un chemin, enfin aujourd'hui c'est ce qui reste du moins, un chemin rural. En tout cas elle en est propriétaire, un chemin dont elle est propriétaire. J'imagine que tout ça devait être, mais je n'en ai pas la certitude, lié à la construction du TGV et au redécoupage qui a eu lieu dans ce cadre-là. Pour localiser, j'en ai un exemplaire, je vous fais passer l'endroit où ça se trouve, hein. Ça se trouve sur le plateau, voilà, mais pour que tout le monde voit un peu où ça se situe. Hein. Oui, elle est propriétaire d'un chemin.
C'est quoi ce chemin?
Non, c'est un chemin qui a été créé.
Voilà, ouais.
C'est un chemin qui a été créé.
Ah, c'est pas un chemin rural.
Non, c'est un chemin qui a été créé selon lorsqu'il y a eu le TGV, afin que les exploitants puissent continuer à exploiter leur terre. Donc, cette association foncière a été créée dans le.
De... Voilà. Alors, effectivement, elle a eu un rôle à ce moment-là. Elle a, j'imagine, aménagé, vous avez dit créé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu l'aménagement du chemin, l'entretien, sans doute. Dans ce cadre-là, il y avait eu des emprunts qui avaient été souscrits. Tout ça est remboursé. Aujourd'hui, il reste plus d'emprunts. Donc, quelques euros qui traînent, mais vraiment quelques euros et des parts sociales qui traînent. Cette association n'a plus aucune activité. Et d'ailleurs, en 2011, le préfet a envoyé une lettre, pour le coup, à toutes les communes, dans lesquelles il demandait, pour les associations foncières, on ne devait pas être les seuls dans ce cas-là, deux solutions. Soit l'association foncière n'avait plus d'activité, auquel cas le préfet demandait à ce qu'elle soit dissoute. Soit elle avait encore des activités, où les gens voulaient la maintenir. Il fallait passer sur des nouveaux statuts, avec notamment tout ce qui est dématérialisation, etc. Donc beaucoup plus de complexité dans la gestion. Aujourd'hui, nous, cette association foncière, voilà, elle a plus d'activité depuis plusieurs années. L'idée, c'est de la rassembler une dernière fois, ou de rassembler ses représentants pour la dissoudre. Alors on verra avec l'association, mais l'idée c'est que le chemin, ils en fassent don en gros à la commune, et que les quelques argent qui restent, ils en fassent aussi, ça passe dans le budget général de la commune, mais bon, ne vous faites pas, il reste peut-être 100 euros ou quelque chose comme ça, enfin c'est rien du tout. Mais ceci dit, s'il reste 100 euros quelque part, ça veut dire que du point de vue administratif, il faut maintenir toute la complexité administrative liée à cette gestion-là. Toujours est-il que les gens, ces associations foncières comportent un bureau qui comprend 5 membres propriétaires exploitants ou non désignés par la Chambre d'agriculture, donc 3 titulaires et 2 suppléants, et 5 membres propriétaires exploitants ou non, mais quand on dit propriétaire, c'est propriétaire de terrain non bâti. Il faut qu'ils paient des impôts non bâtis, c'est le point qui m'avait un peu échappé. Des impôts non bâtis, donc des impôts de terrain non bâtis, désignés par le conseil municipal, 3 titulaires et 2 suppléants, plus le maire qui fait partie de ce bureau. Voilà. Alors, comment ? Et le représentant de la DDT, pardon, j'oubliais le représentant de la DDT. Les membres du bureau avait été désigné il y a déjà pas mal de temps. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que ça fait trop longtemps qu'ils ont été désignés. Il faut redésigner de nouveaux membres. Donc il s'agit de redésigner de nouveaux membres, de les rassembler une dernière fois et de dissoudre. C'est ça l'affaire. Donc aujourd'hui, je vous propose de désigner de nouveaux membres. Je vais, après avoir appelé un certain nombre de personnes... je vous propose donc de désigner 5 membres, 3 membres titulaires. Alors, ce n'est pas forcément des personnes qui habitent Verberie. Hein. Ce sont des personnes qui paient des impôts non sur bâti. Des terrains non bâtis à Verberie. Donc là, il y a M. Philippe Rabé, M. Jean-Noël Plaisant, qui habite Néry, mais qui possède des terres sur Verberie, M. Dominique Balny, qui possède aussi des terres sur Verberie, Monsieur Fabien Abeau, alors les 3 premiers seraient les titulaires, qui possède des terres sur Verberie également, et Monsieur Crinon, comme donc les 2 derniers étant suppléants, qui possède des terres sur Verberie. Voilà ce que je vous propose comme désignation. Pour compléter d'un autre côté, donc la Chambre d'agriculture a été saisie par Madame Javelot, et elle, de son côté, elle va aussi nommer 5 membres, 3 titulaires et 2 suppléants, qu'on puisse dissoudre cette association. Voilà, sur la désignation que je vous propose, je peux le répéter. Monsieur je vous propose de désigner Monsieur Philippe Rabé, Jean-Noël Plaisant, Dominique Balny comme titulaires, Monsieur Fabien Abbeau et Monsieur Crinon comme suppléants. Ah oui, alors était déjà dans les précédents hein, Philippe Rabé, Jean-Noël Plaisant et Monsieur Crinon. Voilà, donc il y a deux nouveaux noms par rapport à ceux qui étaient auparavant. Voilà. Sachant qu'il y a un monsieur qui est décédé parmi ceux qui étaient présents avant. Enfin, voilà, c'est... Donc je vous propose cette désignation-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, ces cinq membres, trois titulaires, deux suppléants, sont désignés. Règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil. Alors, c'est passé il n'y a pas très longtemps au conseil municipal, on le repasse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on a envoyé notre précédent règlement voté, qui était un règlement intérieur, au niveau du département, au niveau de la PMI, qui doit l'approuver. Et la PMI, d'un seul coup, s'est mis à relire de près notre document et nous a dit que celui-ci n'était pas complet et devait être complété. Alors, le nouveau règlement vous avait été envoyé. Alors maintenant, il ne s'agit plus d'un règlement intérieur, mais d'un règlement de fonctionnement. Les modifications qui y sont apportées, on va les passer, sont des modifications de formalisation d'un certain nombre d'actions qui avaient déjà lieu au sein de la structure multi-accueil. Et la version que je vous propose aujourd'hui a évidemment reçu l'avis favorable de la PMI. Donc, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, d'abord, le nom. Avant, c'était règlement intérieur. Maintenant, c'est règlement de fonctionnement. Donc, ça, c'est à l'entrée. Il y a eu donc un sommaire qui a été ajouté parce que dans le précédent règlement, il n'y avait pas de sommaire. Page 4, il y a donc tout un paragraphe qui a été ajouté sur les stagiaires et sur le professionnel vacataire. Voilà, alors les stagiaires, ponctuellement nous accueillerons des élèves qui suivent des études en lien avec la petite enfance, CAP petite enfance, bac professionnel, aide aux personnes, auxiliaire de puériculture, EJE, infirmière. Ils ne sont en aucun cas comptabilisés en tant que personnel. Ces stagiaires sont en apprentissage à la demande de leurs écoles et encadrés par l'équipe tout au long de leur stage. Ils ont une action limitée au niveau des enfants. Pour le personnel vacataire, on nous dit « Le médecin intervient normalement une heure par mois. Dès que ce professionnel de santé sera recruté, il assurera l'admission des enfants de moins de 4 mois en présence de ses parents. Ses missions sont les suivantes. Assurer le suivi sanitaire des enfants et de la structure. Contrôler les protocoles de veille sanitaire. Il est l'interlocuteur privilégié de la responsable pour toutes les questions liées à la santé des enfants, formation du personnel, soutien de l'équipe et des parents. » Bon, nous cherchons toujours un médecin. Autre paragraphe qui a été modifié, page 5, l'accueil d'urgence. Donc l'accueil d'urgence, il concerne un enfant qui n'est pas connu de l'établissement et dont la famille a besoin d'un mode de garde en urgence, assistante maternelle malade, situation familiale difficile, hospitalisation, reprise immédiate d'un travail après une période de chômage, le temps pour la famille de trouver ou retrouver le mode d'accueil adéquat. Cet accueil se fera en fonction des places disponibles. Voilà. Ensuite, ce qui a été modifié, nous allons... J'espère que j'en oublie pas, mais si on saura me le faire savoir. Page 9, où dans le paragraphe assurance, on nous a ajouté « La responsabilité civile des parents doit également couvrir l'enfant s'il cause un dommage envers un autre. Une attestation doit être fournie lors de l'inscription. » Arrivée départ, alors je ne sais plus si c'est des modifications ou des ajouts, « Les enfants seront accueillis le matin à 9h30 ainsi qu'à partir de 11h. Ce laps de temps de 9h30 à 11h nous permet de proposer des activités sans interruption extérieure. Toute absence de l'enfant non prévue doit être signalée à la directrice la veille ou au plus tard le jour même avant 8h. L'établissement fermant ses portes à 18h30, les parents devront être dans la structure au plus tard à 18h15 afin de prendre le temps de faire les transmissions de leur enfant. » Alors, ce qu'ils appellent les transmissions, C'est l'échange entre la directrice ou le personnel de la crèche et les parents. Ensuite, à la page suivante, il y a tout un paragraphe qui a été ajouté sur l'alimentation et sur le trousseau. Donc l'alimentation, le petit déjeuner et le repas du soir sont pris au sein de la famille. Pour les bébés, le lait premier et deuxième âge sera fourni par la famille ainsi que les repas pris par l'enfant le midi. Ils seront confiés à la structure dans un sac isotherme, sac et repas portant le prénom de l'enfant. Les biberons sont confectionnés sur place. Ne pas oublier de nous informer de tout changement, introduction des différents aliments, les modifications de quantité de lait dans les biberons. Les mamans qui le désirent peuvent venir allaiter ou nous confier les biberons de lait maternel dans un sac isotherme. Pour les plus grands, les repas sont fournis chaque jour par un établissement de restauration collective HAPI. Les enfants peuvent consulter les menus... Les parents peuvent consulter les menus de la semaine qui sont affichés dans l'entrée de la structure. Ces repas sont facturés en fin de mois sur la facture mensuelle. Le goûter est fourni par la structure multi-accueil. Le trousseau doit comprendre un change complet, à renouveler en fonction des saisons et de la croissance de l'enfant. Un sachet pour le linge sale ou mouillé à récupérer le soir, par les parents si besoin. L'objet qui fait office de doudou. Une paire de chaussons ou chaussures propres pour les enfants qui marchent. La structure n'est pas responsable des vêtements et décline toute responsabilité en cas de perte ou de dégâts. Ensuite, dans les bijoux et accessoires, les barrettes, pièces de monnaie et menus objets sont interdits. Ces derniers présentent un danger pour votre enfant ainsi que pour les autres enfants accueillis en cas d'ingestion notamment. Dans la rubrique sommeil, chaque enfant bénéficie de son espace personnel de sommeil pour les enfants en accueil régulier et dans la mesure du possible pour les occasionnels. Son rythme individuel est suivi dans le respect des conditions de sécurité affective et physique. Les sorties, nous organisons régulièrement des sorties à pied ou en poussette dans le parc du château. Pour les plus grands, une sortie à la bibliothèque municipale de Verberie est prévue de façon régulière, une fois par semaine. Pour l'enfant malade, on ajoute que l'administration de médicaments pendant les heures de garde doit rester exceptionnelle. Il y a un paragraphe qui a été ajouté sur les urgences. En cas d'accident ou de maladie grave, il sera fait appel aux services d'urgence compétents, SAMU, pompiers. Les parents seront bien sûr avertis. Si l'état de l'enfant nécessite une hospitalisation, le transport sera fait par les services d'urgence. Il est impératif de pouvoir joindre les parents à tout moment de la journée. Participation des parents à la vie de la structure, ça aussi c'est des choses qui se faisaient déjà, mais qui sont formalisées, du moins pour une partie. Je dis formalisées parce qu'elles n'étaient pas avant, notamment la petite fête qui se trouve à la fin. Donc là maintenant il est écrit, l'arrivée et le départ de chaque enfant sont l'occasion de transmission et d'échange bi-quotidien entre les parents et le personnel. La directrice et son adjointe sont à la disposition des parents pour toute question concernant leur enfant ou l'organisation de l'établissement ainsi que le reste du personnel. Les parents qui le souhaitent peuvent participer aux activités du matin et nous accompagner lors de sorties ou nous faire partager leur passion, musique, danse, atelier culinaire, en prévoyant à l'avance leur venue auprès du personnel. Une fois par an, une petite fête, goûter, expo, photo, réunis, enfants, parents et personnel. Et enfin a été ajouté le petit paragraphe qui permet aux parents de signer et de dire qu'ils ont bien pris connaissance de ce règlement de fonctionnement. Voilà, c'est ce qui a été modifié dans le règlement. Oui, madame.
Alors, au niveau personnel responsable de la structure,
oui.
Il y a marqué la directrice.
Donc, oui.
En son absence, son adjointe.
Oui.
D'accord. Et en l'absence de la directrice et de l'adjointe. Alors, j'ai vérifié. Obligatoirement, une des deux doit être présente ou joignable à tout moment. Ça, c'est pas...
Une des deux.
Ou la directrice ou l'adjointe. Mais on ne peut pas confier la responsabilité de la crèche aux auxiliaires de puériculture. De puériculture, c'est interdit.
On va voir, on l'ajoute ça.
Les vérifier à la
parce que là, ça a été. Là, ça a été quand même validé par la PMI, cette rédaction-là.
Ouais. doivent être joignables au moins par téléphone pour que. Et normalement, elles ne doivent pas prendre de congé ensemble. Et si elles en prennent, il faut pouvoir la joindre par téléphone.
Ah oui. Alors, à mon avis, c'est moins le problème de congé, parce que le problème de congé, elles sont jamais en congé en même temps.
Ça peut arriver,
mais il peut y avoir, par contre, en congé et une qui est une maladie ou un empêchement.
Bon.
Alors,
l'instruction par téléphone.
Là, moi, le courrier que j'ai, qui est signé de la directrice adjointe prévention, promotion, santé, de la santé PMI, médecin départemental, Madame Wattley, nous dit « J'ai l'honneur d'émettre un avis favorable à la modification de ce document, dès son approbation par votre assemblée délibérante. »
C'est tout, moi, je vous dis, j'ai vérifié alors, en fait, des crèches de
l'IHP. Ce que je vous propose de faire, c'est de le voter là, et on va de toute façon contacter Madame Wattley, on va lui indiquer la remontée que nous avons eue, et si vous le voulez bien, si elle nous dit effectivement c'est un oubli, il faut l'ajouter, dans ce cas-là, on ne repassera pas en conseil municipal, on l'ajoutera.
L'annexe, M. Borbelin qui a vérifié le règlement, il demande que dans l'annexe, où on a mis la directrice, en son absence, son adjointe, et en l'absence de la directrice et de l'adjointe, il peut qu'on mette un ordre de priorité
entre les deux personnes.
Madame Anton et Madame Levadresse. Mais ordre de priorité, on ne peut pas, puisqu'il y en a une qui travaille le matin et une l'après-midi.
Oui, normalement, il doit y avoir quelqu'un qui puisse.
Donc, mais il a accepté les deux absents. Hein.
Voilà.
Bon, dans la réalité, elles ne sont jamais absentes en même temps, puisqu'elles s'organisent pour leur congé.
Moi, vous donnez une astreinte. Normalement, il y a une astreinte. C'est ce qui se fait, moi.
Bon, enfin, concernant ce que j'ai ajouté à la fin, je vous propose de passer au vote, sachant qu'il y aura peut-être une petite modification qui interviendra suite à votre remarque, madame. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, le règlement de fonctionnement est adopté, avec peut-être une petite phrase qui sera ajoutée. Point suivant de l'ordre du jour. Règlement de restauration scolaire. Alors là, c'est juste un paragraphe, c'est pour ça que vous n'avez qu'une feuille. Effectivement, le paragraphe 4 du règlement de restauration scolaire qui était consacré au cas particulier d'admission de radiation en cours d'année, nous a semblé finalement devoir être revu parce qu'il disait qu'en fait, une procédure d'admission ou de radiation dérogatoire est possible dans les cas limitativement énumérés ci-dessous, perte d'emploi, déménagement, reprise d'activité, décès. Voilà, le maire ou l'adjoint chargé des affaires scolaires étudiera le cas individuellement et autorisera ou non l'admission ou la radiation. En tout état de cause, la famille devra avoir prévenu le secrétariat de la mairie par écrit. Donc on vous propose de mettre un petit peu plus de souplesse dans cette affaire-là et de le remplacer par une procédure d'admission ou de radiation dérogatoire est possible afin de faire face à des situations graves, exceptionnelles ou soudaines, telles que séparation, décès, hospitalisation, perte d'emploi, déménagement, reprise d'activité. Trois petits points. Le maire ou l'adjoint chargé des affaires scolaires étudiera le cas individuellement et autorisera ou non. Enfin, l'arrest est complètement identique à ce qui était fait avant. On n'avait pas été très bon, mettre une liste fermée, c'est jamais très bon. Et vous toujours la laisser ouverte. Il y a toujours des cas inattendus qui se présentent et qui méritent d'être acceptés. Voilà, donc qui est contre cette modification ? Qui s'abstient ? Cette modification est approuvée à l'unanimité. Location de la grande salle du château. Alors il s'agit d'un tarif exceptionnel. En fait, je vous explique la situation. Le week-end du 7 et 8 novembre, le château est pris par la commune le 7 novembre, donc le samedi, pour la venue, et j'espère que nous sommes nombreux, c'est toujours bien d'aller voir, d'un conteur. Tu peux peut-être nous en dire un mot, là, Odile
C'est dans le cadre du festival du conte, organisé en partenariat avec la MDE. Cette année, l'heure du conte sera interdite. D'autres bibliothèques municipales, mais entre autres à Garderie. Et donc, nous accueillerons une conteuse qui s'appelle Janine viendra pour deux comptes, un à 16h et l'autre à 20h30. Donc on a besoin de la salle du château toute la journée, puisque le matin, nous préparons l'accueil du public qui a lieu dès l'après-midi.
Voilà. Donc, d'ailleurs, je crois que l'après-midi, c'est à partir de 7 ans et le soir, c'est à partir de 12 ans. Bon. Jusqu'à...
Enfin, quand on dit 12 ans, en fait, c'est plutôt un conte adolescent-adulte, alors que l'après-midi, c'est un conte.
Voilà. Donc, nous espérons vous y retrouver nombreux. Mais ceci dit, je reviens sur le sujet. Le 7 septembre, la salle est donc occupée par la mairie.
Novembre.
Le 7 novembre, merci, c'était pour voir ceux qui suivaient. Oui, c'est bien. Bon, classique, hein, mais bon. Le 7 novembre, donc, la salle est occupée par la mairie. Donc, il reste le dimanche 8 novembre. Il se trouve que le dimanche 8 novembre, effectivement, il y a l'association familiale qui organise un concours, un tournoi de Pokémon. Donc, dans ces circonstances exceptionnelles, puisque le dimanche reste isolé, on propose de le louer le dimanche, je vous propose de le louer le dimanche seul à l'association familiale. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment de l'exceptionnel. Il n'est pas question à l'avenir de dire on va louer uniquement le dimanche. C'est juste parce qu'on est dans cette situation exceptionnelle où le samedi étant déjà pris, finalement il reste le dimanche. Donc le dimanche, il est voilà, si on ne fait pas ça, il ne sera pas loué. Voilà, c'est... Donc on propose de le louer en fait pour la somme au tarif forfait et exceptionnel de 225 € et de plus 65 € de frais de ménage à l'association familiale.
Mais pourquoi on loue à l'association?
Parce que c'est leur, plus, c'est leur deuxième location. C'est pas la première fois, sinon ils l'auraient gratuitement.
Voilà. Alors, non.
Championnat de France.
Voilà. Ça ne remet pas en cause le tournoi national qui se déroule maintenant depuis quelque temps déjà celle d'Agobert. Et le tournoi national, c'est plutôt d'ailleurs l'été, hein. Enfin, en juin. En mai, pardon. Voilà, donc, qui est contre cette location au tarif indiqué? Qui s'abstient? Très bien, approuvé à l'unanimité. Point suivant de l'ordre du jour. La convention de partenariat Ouati à l'école. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Laurent Baumler, chargé des affaires scolaires.
Alors, donc, le programme Ouati à l'école. Donc, au vu des baisses des dotations d'une part et de l'augmentation des charges d'autre part sur la commune, qui arrive dans les prochains mois, nous cherchons à faire des économies d'énergie globalement sur l'ensemble de la ville. On a déjà commencé par couper les lumières la nuit, on s'oriente vers des programmes pour remplacer les lampes dans les rues qui sont très énergivores par des LED, etc., etc. Puis globalement, c'est quand même bon pour la planète. En ce qui concerne nos bâtiments scolaires, ils sont très énergivores. Évidemment, puisque c'est des bâtiments qui sont assez anciens, les fenêtres sont avec du simple vitrage, en chauffage collectif, etc., etc. Nous avons donc mené une réflexion, qui est donc la suivante. Comment amener à faire des économies d'énergie de façon ludique et instructive pour nos enfants scolarisés dans nos écoles? Il en ressort que le programme donc Ouati à l'école, avec comme symbole une petite prise transformée, sera un bon moyen de parvenir à notre objectif. Ce projet vise à sensibiliser nos enfants dans nos deux établissements de primaire sur les économies d'énergie, mais surtout de les rendre acteurs, de rendre les enfants acteurs. C'est une façon de les rendre responsables à l'école, mais également chez eux, avec des gestes parfois très simples. Donc comment se déroule ce programme? Il y a un intervenant externe qui va passer une fois par trimestre dans chaque classe pour faire des ateliers sur des thèmes précis, illustrés par des vidéos sur tout ce qui est l'eau, l'électricité, les chasses d'eau, etc., etc. Ce même intervenant viendra effectuer des actions ponctuelles tout au long de l'année, comme par exemple l'opération Gros Pull, qui va consister pendant une semaine à baisser le chauffage dans les écoles. On va demander aux enfants de se couvrir un petit peu plus que la normale, mais c'est pour les sensibiliser au fait que si on baisse le chauffage d'un degré ou deux, ça ne va pas changer grand-chose et c'est bien pour tout le monde. Cet intervenant sera relayé par les enseignants qui vont effectuer plusieurs petites séquences, parfois hebdomadaires, parfois tous les jours, enfin voilà, c'est eux qui vont gérer ça, sous forme de jeux. Et donc la société, évidemment, nous livre des kits de jeux pour répondre à ce besoin. Il y aura parmi les enfants des gardiens de la lumière, des gardiens de l'eau. Une distribution de kits d'économiseurs d'eau sera faite pour chaque enfant et une distribution à plus grande échelle lors, par exemple, d'une manifestation dans la commune. Donc là, c'est pour retoucher le certificat d'énergie, puisque c'est un programme qui est financé de cette façon-là. Un mini-diagnostic et un suivi des consommations seront effectués avec l'aide de nos services techniques. Cela nous permettra de mettre le doigt sur des priorités, des fuites, des isolations, etc., etc. Donc avant de prendre la décision de vous présenter cette action en conseil municipal, nous avons sollicité évidemment les enseignants du primaire. Et je dois donc remercier toute l'équipe enseignante, puisque la totalité des deux écoles, soit 10 classes, ont répondu favorablement à cette demande. Ils ont déjà rencontré l'intervenant et sont au fait de ce dispositif. Voilà. Et vous avez donc eu normalement toutes les conventions et les brochures.
Alors, cette opération, elle se passe sur le temps d'école?
Oui, c'est dans le temps d'école. Dans le temps de l'école.
Et les maîtres et maîtresses sont entièrement favorables, sont tous...
Oui, on a eu l'inspection académique qui a validé cette opération. Voilà. On a validé, donc l'inspection académique a validé cette opération, et puis les directrices et les enseignants concernés aussi ont validé, voilà, sont d'accord pour le faire.
Il y a eu des expériences, des échos,
oui,
des expériences.
Il y a eu une mairie, j'ai téléphoné au secrétaire de mairie, je suis en train de chercher le nom en partant sur Beauvais, je l'ai oublié, je ne sais plus le nom, enfin le secrétaire, j'ai eu le secrétaire de mairie, qui était globalement satisfait de l'opération. Alors évidemment, ça ne va pas permettre de réduire la facture par deux, mais je pense qu'on peut sensibiliser.
Ça fait partie de l'éducation.
Voilà, c'est partie de l'éducation aussi.
De toute façon, il faut toujours impliquer les gens.
Mais, tu m'en as parlé, mais il y a un coût sur cette opération-là, qui ça va coûter à la mairie.
Oui.
Et c'est un intervenant extérieur qu'on paye, en fait.
Oui,
c'est ça.
Tout à fait.
Pourquoi?
Parce que c'est un programme payant. Il va y avoir donc évidemment des cours qui vont être donnés aux enfants. Et puis il y a surtout des kits qui sont distribués aux enfants pour économiser l'eau. Il y a des jeux qui sont à disposition des enfants pour que les enseignants puissent reprendre le relais derrière, en fait. Voilà pourquoi il y a un kit.
Et comme c'est pris sur le temps de l'école, est-ce que les parents ils ont une concertation là-dedans? Ou quoi?
Non, pas forcément, non, c'est une initiative des collectivités locales.
Mais ce sera présenté en conseil d'école.
On en parle en conseil d'école, dans les trois conseils d'école qui ont déjà commencé, j'en sors un, voilà. Une par trimestre.
Dans chaque école, dans classe.
Par classe.
Donc il y a
10 classes.
10 classes.
Dans chaque classe.
Oui.
Ça fait 40 interventions. Ouais. Combien de temps?
Oh, je crois que c'est de l'ordre de 3 quarts d'heure maximum. Parce qu'il y a aussi l'attention des enfants. Il faut aussi que ce soit très court mais pertinent, parce que c'est pour ça que c'est très ludique avec des vidéos, etc., etc.
Bon, c'est une action à la fois, enfin, on fera peut-être quelques petites économies, mais c'est surtout une action de sensibilisation des enfants. D'un comportement responsable vis-à-vis de l'énergie.
Et on voit que ça déborde un petit peu, puisque notamment les enseignants qui en ont parlé entre elles, il y a deux enseignants qui sont partants, par exemple, pour réduire les déchets de la cantine. continuer à réduire les déchets de la cantine. Donc ça déborde sur tout ce qui est développement durable, traitement des déchets, etc. Puis ça a donné d'autres idées aux deux enseignantes, notamment pour faire une action auprès de la cantine. Et là, on dit finalement que c'est plutôt positif.
J'en parle déjà dans l'arthrophane, mais par exemple, moi, ce soir, Paul, le mien qui est au CO2 à l'école du sang, avait comme question
où passe si tu peux parler un peu
les
plus fort,
ordures ménagères et que fait-on à partir des déchets recyclés, des poubelles jaunes. Donc c'est déjà dans le programme scolaire, là, ça permet de le développer et de les sensibiliser différemment aussi.
L'autre jour, dans Verberie, ils ont d'ailleurs fait une journée de collecte.
Je vais vous dire honnêtement, ce n'est pas les enfants qu'il faut sensibiliser, c'est les parents.
Oui, mais c'est les parents.
Moi, j'ai remarqué qu'on a passé. C'est très bien d'avoir dit aux enfants de ramasser la merde des parents. Mais je voudrais peut-être, en parlant vulgairement, c'est ça, il faudrait peut-être que les parents se rendent compte que leurs enfants ramassent leur propre merde, en parlant vulgairement. Parce que le samedi, vendredi, les enfants ont ramassé, on est d'accord.
Alors, c'est pas forcément les parents, quand même, des enfants en question qui.
Bah, tu sais, devant les écoles primaires et maternelles, c'est pas le gars qui habite à la gare qui vient acheter mon papier là. Tu es d'accord avec moi, Cécile ?
Cette opération, là, Madame Javelot me donne. L'opération coûte 10 280 euros au départ. Prise en charge par, tout ce qui est économie d'énergie, il y a 8 508 euros qui est pris en charge, donc on n'a pas à payer hein, par l'ADEME. Et le coût annuel est de 2 126,40 euros.
Qui a été encore, je crois.
Alors, donc justement, il faut savoir que le tarif a été négocié, parce que le tarif initial était de 2 056 euros hors taxe. Ils nous ont fait une remise de 13% avec un décalage du paiement. Et ramené à 250 élèves, ça fait 8,50 euros par élève. Voilà.
Bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, Madame Coulet s'abstient. Donc, une abstention. Une abstention donc pour... une abstention pour Wati. Donc, ça fait combien de votes pour? Ou alors je compte, hein. 24 pour. Bon, très bien. Sujet suivant. Donc, je vous ai dit, la charte d'entretien, nous remettons ça ultérieurement. Même si aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même brûlant d'actualité. Déjà, on voit bien que sur les produits phytosanitaires, ben, on a déjà des contraintes très fortes. Puisqu'à 5 mètres d'un fil d'eau, on n'a plus le droit d'utiliser de produits phytosanitaires. Hein, de produits phytosanitaires, pardon, j'oublie le terme qui va avec, réglementés, je ne sais plus comment on dit après. Enfin, de produits phytosanitaires efficaces, quoi.
Désherbants.
Je ne sais plus quel terme après, mais c'est ça.
Oui,
c'est effectivement pas une affaire simple. Chacun peut le voir, c'est complexe à mener. Je crois que toutes les communes rencontrent quand même... Comment ? Oui. Toutes les communes rencontrent des difficultés dans ce domaine-là. On regarde aujourd'hui, encore M. Leblanc était cet après-midi à des démonstrations pour voir les machines qu'on fait aujourd'hui avec des balais ou des choses comme ça qui permettraient d'aller plus vite que la rasette, parce que c'est un peu ce qui reste après, sur ces affaires-là. Mais au 1er janvier 2017, c'est une interdiction à quelques exceptions, parmi lesquelles on doit trouver le cimetière, peut-être le stade de foot.
Oui, s'il y a un stade de foot.
Voilà, tout le reste, on n'aura plus le droit d'utiliser de produits phytosanitaires. C'est un de 1er janvier 2017. Inutile de vous dire que...
Moi, ils utilisaient les mêmes. Enfin, on aura le droit d'en utiliser, certains. Mais pas les mêmes.
Oui.
Pas doué.
Oui.
Des bio.
Qui auront la même molécule.
Non. Alors, d'autres... après, c'est un problème d'efficacité. Voilà. Hein, comment ?
Il fonctionne. Moins rapidement, mais il fonctionne.
Et toi, c'est beau. Je vais vous dire, je ne peux pas le rendre en équilibre, mais l'eau, là, qui fonctionne. Ça fait crever la
peinture. Oui. Il
faut nous donner les noms.
Mais attendez, madame, c'est des produits...
La molécule est quasiment la même.
C'est pas systémique.
Oui, alors...
Monsieur Leblanc.
La différence, c'est que ce dont vous parlez, c'est les défoliants.
Voilà.
Les systémiques qu'on utilise aujourd'hui.
Alors la différence entre les défoliants et les systémiques, c'est que le défoliant, il faut repasser tous les 3 mois. Et le systémique, c'est
6 mois.
Une fois.
Et encore le désherbant là-bas,
c'est
2 ans.
Ah ouais, bah. Ouais, mais c'est interdit. Enfin, ça va être un enjeu qui n'est pas simple à mener. En tout cas, voilà, on voulait mettre cette charte à l'ordre du jour. Elle sera mise à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.
Et pourquoi trouver de produits encore Ils ne sont pas trouvé encore de produits pour remplacer les produits phytosanitaires.
Il n'y a pas de volonté politique.
Mais voilà, il n'y a pas de volonté.
Dans 10
ans, il sortira sous un autre nom, ce produit.
Bon. Bon, très bien, on a évoqué un peu ce sujet-là, c'était plutôt de l'information, donc puisque le point est remis. Donc je vous propose de passer à un autre point d'information, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets de la communauté de communes de la Basse-Automne, exercice 2014. Donc vous avez tous reçu ce rapport annuel, qui est d'ailleurs consultable, ou qui sera consultable en mairie. Mais il est peut-être d'ailleurs en lien il est peut-être accessible directement sur le site de la communauté de communes, hein, où vous pouvez y avoir accès. Ce document comprend pas mal de chiffres dans tous les domaines. Je ne vais pas en faire la lecture exhaustive, je crois que vous l'avez eu les uns et les autres. Je dirais simplement que au niveau de ce qui est ordures ménagères, on voit que en 2013, sur ce rapport, il avait été collecté au niveau de la commune, au niveau de la communauté de communes, 1035 tonnes d'ordures ménagères. Ça c'était en 2013. En 2014, 979 tonnes. Et là, pour 2015, on sera autour de 830 tonnes. Voilà. Alors après, tout ça serait très bon si ça voulait dire qu'il y ait moins de production de déchets. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Les déchets, tout simplement, ils s'en vont ailleurs. Ils s'en vont parfois vers d'autres points, chez des employeurs extérieurs, vers d'autres sources, et ils s'en vont aussi vers d'autres communes extérieures, et ils s'en vont aussi pour une fraction sous forme de décharges sauvages un peu partout. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'au-delà de 2014, les fuites continuent et se augmentent d'année en année. Derrière, ça a des conséquences, notamment budgétaires.
Enfin, je ne peux pas être remarqué, le budget, avant de passer au supplétif, le budget était €1,250,000. Je fais quand même la remarque. Il y a 6 ans, il était €1,250,000. Aujourd'hui, il est €1,750,000. Donc, c'est tout. Après,
il y a derrière ça un certain nombre d'inconvénients, on le sait bien, un peu partout.
Donc il n'est pas réparti de la même façon, quoi. Le budget. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes personnes qui payent. Ils ont tout ça.
Si,
parce que. Je veux dire, les personnes âgées payent peu.
Il y avait eu 200 000 euros de moins.
Les jeunes payent plus.
Il y a 200 000 euros de moins au niveau du budget par rapport avant qu'on mette.
Mais c'est pas réparti de la même façon.
Aujourd'hui, même si Alors que ce soit pas réparti de la même façon.
C'était plus équitable avant, je trouve.
Et une personne seule qui avait une maison et qui était veuve, elle payait très cher par rapport. D'accord qu'aucun système ne peut être. Aucun système n'est parfait. Mais il est bien évident que doit payer ce qu'on consomme.
Bon, maintenant. Parce que je ne comprends pas pourquoi ça nous coûte de plus en plus cher, parce qu'on est moins en moins de tonnage.
Ah oui, je comprends. Ben, c'est pas
ça. Normalement, c'est
pas très incitatif.
Ça incite les gens à jeter moins, à jeter mieux, à trier davantage. Or, la part fixe, tous les ans, quand on réduit, elle augmente.
Parce que la part.
La part fixe, ça sert à équilibrer le budget.
Normalement, il aurait fallu mettre la part fixe uniquement sur les frais fixes. Or, ce qui n'a pas été fait pour que ce soit incitatif. Parce que si vous aviez mis la part fixe, uniquement fixe, vous auriez mis 80% de part fixe. Donc à ce moment-là, on aurait mis, mais c'est certainement ce qui aurait dû être fait. Alors là, ça aurait été beaucoup plus cher d'entrée, mais c'est-à-dire que personne n'a cru qu'il y aurait eu une descente des tonnages. Alors, il y a le fait que les gens sont les incivilités, voilà. Ça, malheureusement, les incivilités, alors, je reconnais qu'il est plus facile de faire ça en Suède ou en Norvège qu'à Marseille. C'est plus facile.
Mais bon.
Bon, aujourd'hui, ici, on n'est ni à Marseille ni à Oslo, mais on est entre les deux et il reste beaucoup d'incivilités. Et comme vous avez les papiers, il serait aussi intéressant dans les écoles de faire justement ce type de sensibilisation pour parce qu'en fait, la plupart essaient de tricher sur
Les gens, c'est tout leur déménager, ils vont aller chez le voisin, ils le jettent ailleurs. Quand j'étais à Pompidou, on les voyait par la fenêtre, on les voyait venir dans des pavillons à côté, éventrer les belles et mettre leur sac dedans. C'est tout à fait, on est bien d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il fallait le. C'est un système. Quand j'étais à la taxe frontière, c'est vrai que ça présentait certaines injustices.
Oui, mais ça a permis quand même de doubler le tonnage de verre. Ça a permis de doubler les tonnages de plastique et de papier.
Vous savez, justement, on restera seul, et donc quand vous êtes seul quelque part, vous êtes forcément pénalisé.
Pas que ce soit partout pareil. Moi, là, on serait.
Là, on est seul à le faire, on est donc pénalisé.
Non, mais à un moment, on aurait pu penser que, d'ailleurs, si tout le monde avait fait, aujourd'hui, l'incinérateur de Villers-Saint-Paul pourrait accueillir la totalité du département et la moitié du département de l'Est.
Ce
n'est pas le cas, puisque les villes de Compiègne, les frais sont encore à 320 kg par an et par habitant. De déchets,
Je vous propose de revenir au sujet.
Lorsque vous avez les budgets communaux, vous avez l'augmentation des bases. Tous les ans, vous avez une augmentation des bases qui est de 1%. Et là, vous n'avez jamais d'augmentation de base, puisque le service, il augmente. Et à chaque fois qu'on augmente, on dit « Ah ben oui, ça a augmenté, mais ce serait bien le seul service à ne pas augmenter. »
Enfin, globalement, les gens, on voit quand même, on va, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort.
Ce qui serait intéressant, oh. Je vais proposer à la prochaine réunion, c'est que les gens viennent avec leurs feuilles.
Oui.
Il y a 10 ans. Oui. Il y a 5 ans, juste avant la mise en place. Et on fait les calculs. Hein, moi, je suis entièrement d'accord qu'on fasse ça.
Bon, on voit.
On ramène les feuilles, on les regarde et on regarde son feuille aujourd'hui. Il n'y a que ça.
Non, on voit aujourd'hui qu'on est dans un système qui pose quand même des problèmes de salubrité publique. Il y a des déchets un peu partout. Il y en a beaucoup. Et ensuite, on voit aussi que ce système, il est dans une spirale négative et perdante. Donc tous les ans, en fait, les poids vont diminuer et tous les ans, les prix vont augmenter.
Un jour, il sera
stabilisé. Oui. Et puis ensuite, on est les seuls à le faire et ça, on ne récupérera jamais l'effort des habitants pour le tri, pour la meilleure qualité de tri, elle ne sera jamais récompensée. Dans le contexte actuel et prévisible.
Je vous l'accorde.
Bien basé.
Ça, je vous l'accorde, que ce soit bien récompensé, d'autant plus qu'il a été créé une part fixe au niveau des guichets, je ne sais pas si c'est un itinérateur, des pompes, car lorsqu'on a pris cette décision, il n'était pas question qu'il y ait une part fixe au niveau de l'itinérateur pour.
Oui, mais c'est ce que je dis, quand on est seul quelque part, on joue perdant.
Ouais. On a changé les règles du jeu.
Ah bah oui. Quand ils sont 30 autour et qu'ils font pas la même chose.
Les autres, là, hein, c'est sûr.
Non,
bien.
Non,
bah Creil.
Ah oui, non mais. Non, mais
hein enfin, on avait la possibilité, voilà. Il n'y a pas très longtemps, de changer le système.
Ouais.
Enfin, bon, ouais. Aujourd'hui, le système, il y a ce qui est anormal.
Creil pour Creil,
le système.
Quoi.
Hein, que Creil n'est même pas COS, hein, que les ordures ménagères de Creil soient payées par le budget général, hein, et qu'il n'existe
bien.
Pas de COS, que le système il est pervers parce que ce sont les bon. Industriels qui payent aujourd'hui les ordures ménagères des habitants, et que ce soit à Beauvais ou à Creil. Donc, il n'y a pas, aujourd'hui, la loi, on légifère sur beaucoup de choses, mais on ne légifère pas sur tout le corps.
Bon, on est seul. Alors.
Cette année, quand même, il y a eu énormément de contrats au niveau de la CCBA. Et là, le système aurait pu changer au moment du vote
On aurait pu remettre comme avant.
Et pour autant, là, ou à la levée, c'est reconduit en l'état, et donc ça va toujours, la part fixe va toujours augmenter, puisque de toute façon, la part fixe est déficitaire.
La part fixe,
c'est la part variable qui est déficitaire. C'est pas la part fixe.
Alors, on revient sur 2014. Donc, avant de dire quelques éléments sur 2015. Donc, en 2014, dans les conclusions, je vais lire quelques passages, hein, sachant que le reste du document est factuel et chiffré, donc il faut regarder les chiffres. Je crois que je vous ai donné le chiffre le plus, quelque part, le plus significatif, et puis quand même le chiffre le plus important. Les ordures ménagères, donc, c'est marqué, ont continué de baisser en 2014. Il est noté que le détournement des déchets et les dépôts sauvages ont perduré en 2014, et que la baisse du tonnage des ordures ménagères s'explique par la mise en place de l'extension des consignes de tri. Alors ça, c'est plus ou moins vrai, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les consignes de tri étant été mis en place, les poids continuent à diminuer.
Ben oui, c'est normal, puisque l'extension de la consigne de tri, c'est normal que les poids...
Bah pas cette année, puisque c'était il y a plus longtemps, pas en 2015.
C'était déjà en 2013.
Oui, mais en 2015, il continue... Oui, en 2014. Mais en 2015, on voit que ça continue à diminuer. Concernant la grille tarifaire, les élus de la CCBA ont pris la décision d'augmenter le prix de la part fixe de 7 euros par an afin d'assurer partiellement l'équilibre du budget annexe déchets ménagers, budget qui est très difficile à équilibrer. Euh, Voilà, autre point. Voilà, oui, l'autre point qui était important, c'est concernant tout ce qui est facturation et administratif. Par ailleurs, en 2014, la CCBA a continué à gérer le service au quotidien, emménagement, déménagement, explications sur l'AROM, échange de bacs, réparation. Malgré la délégation faite à Veolia Propreté, il apparaît que les usagers se dirigent naturellement vers la collectivité et non pas vers le collecteur. Ceci laisse à penser que la gestion administrative et technique du service en interne serait plus pertinente et à envisager dans le cadre d'un nouveau marché. Donc ça, c'est ce qui a été fait, puisque là, en gros, les personnels de la CCBA faisaient le travail et ont payé Veolia. C'était l'enseignement. Le problème de la CCBA, évidemment, ça découle, je pense, aussi du mode de la redevance incitative à la pesée, c'est qu'on a un taux de refus qui est important, qui est dû à des mélanges, en fait, d'ordures ménagères dans les emballages et sur les recyclables imbriqués ou souillés. Donc, en moyenne, le SMVO, ils ont un taux de refus qui est beaucoup moins élevé que celui de la CCBA. Donc, on se retrouve un petit peu pénalisé à ce niveau-là. Ensuite, il est encore marqué, les élus ont poursuivi leur réflexion sur la suppression des points d'apport volontaire hors collectif de verberie, qui est programmé en 2015. Donc, effectivement, les points d'apport volontaire emballage papier, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont été supprimés sur toute la communauté de communes, à l'exception des collectifs de verberie, où pour l'instant, il n'y avait pas d'autre solution, même si le bailleur social travaille sur d'autres solutions.
Les points d'apport volontaires, on mettait les ordures ménagères dans les points d'apport volontaires.
Naturellement, pour ne pas payer. Ça, c'est très classique. Oui, celui qui est rue des Remparts va être retiré. Celui qui est à côté de les cuisines.
Pour information, en dessous,
des
il y a
cantines.
Un ruisseau. Hein. Je tenais à vous faire vous le dire.
Oui.
D'accord.
Il y a un ruisseau avec de l'eau qui coule.
Non, c'est un ruisseau.
On en rigole, mais il y a toujours quelqu'un qui est capable de le boucher sans faire exprès. On vient signaler qu'il y a un ruisseau qui coule.
Alors,
et si on le bouche, il y a la gendarmerie, elle a les pieds dans.
Sans trop en ajouter, là donc bon, chacun peut évidemment le consulter, le lire. Je pense que vous l'avez eu, mais tous les habitants peuvent effectivement le consulter. Ce rapport, à mon sens, il manque au moins aujourd'hui un indicateur. C'est les impayés de plus de 6 mois. Ce serait un indicateur intéressant, le montant des impayés de plus de 6 mois. Parce que moins de 6 mois, bon, on vient de recevoir la facture, normal qu'il y ait un taux d'impayés important. Mais l'évolution des impayés de plus de 6 mois, surtout dans le contexte où on est, c'est sans doute un indicateur à mettre en place. Et puis, on voit bien qu'au niveau de la CCBA aussi, puisque la part fixe repose en partie sur le volume du bac, c'est aussi l'évolution des volumes de bac. Parce que ce qu'on constate, c'est que les gens rendent leurs 240 litres essentiellement pour prendre des 120 litres. Donc là, il y a une diminution de la part fixe qui est liée.
Ouais.
Non, la grise.
La grise. La jaune, on ne paye pas.
Ouais. Donc ce sont deux indicateurs qui seraient intéressants à mettre.
Prendre des prises, s'ils ne la remplissent pas. Ah, s'ils la remplissent pas, ça sert à rien d'avoir un grand.
Alors, à titre d'information également, 2016.
Comme tu diminues, tu tries plus.
2016, la communauté de communes s'attend à, si on laissait les prix et tout en l'état, à un déficit de 100 000 euros. Donc le déficit, évidemment, n'est pas possible, puisqu'il s'agit d'un budget annexe qui doit être équilibré et qui ne peut plus, à partir de 2007, être comblé par le budget général. Donc il va falloir effectivement prendre des mesures. Donc ça va faire partie du prochain conseil communautaire, je pense, bien que je n'ai pas encore vu l'ordre du jour. En 2016, c'est aussi le début du nouveau contrat. Dans le nouveau contrat, il y a donc la reprise de la facturation par la communauté de communes. C'est le point que j'évoquais tout à l'heure, qu'on payait jusqu'à présent à Veolia et qui, ou traitement des problèmes, et qui finalement se retrouvait traité par la communauté de communes. Le service restera globalement le même, avec un plus au niveau des collectifs, pour essayer de faire face aux problèmes d'encombrants qu'ils rencontrent. Il y aura une collecte d'encombrants mensuels sur rendez-vous, juste au niveau des collectifs.
Et il y aura des petits camions pour ramasser dans les communes qui ne sont pas accessibles.
Non,
il y aura
du personnel. Je me dis, ça a changé.
Non, ça n'a pas changé. Pour moi, il avait été proposé, mais c'est trop cher.
Bon.
Hein, donc c'est l'association intermédiaire qui
fournira du personnel.
Que nous solliciterons pour aller descendre les bacs dans les rues qui sont trop étroites pour le passage des camions.
Il y aura également un ambassadeur de tri qui sera mis en place, dont le coût salarial est en grande partie compensé par des aides de, je sais pas qui, l'État, c'est l'État ?
Oui.
C'est l'État. Donc ça devrait coûter 4000 euros par an, cet ambassadeur de tri. Et je crois que l'une de ses missions principales, ce sera de faire reculer justement le taux de refus, pour qu'on soit moins désavantagé à ce niveau-là. Nous rencontrions aussi au niveau de la commune un problème avec les D3E, donc tout ce qui est déchets électroniques, qui sont collectés sur le bord des routes, notamment. Donc à partir de maintenant, il suffit de téléphoner au SMVO pour qu'ils nous prennent ces déchets-là au niveau de la déchetterie. Donc là, c'est pour Monsieur Leblanc, suite à la demande qui avait été formulée.
C'est pas encore le cas actuellement.
Si, mais ça se faisait ponctuellement, et bon, je demandais au bureau, en fait, le problème, c'est aussi un problème important, parce que c'est avec le e-commerce, hein, ça peut poser des problèmes, puisque
ils ne reprennent pas
ils ouvrent une machine à laver, mais
ils ne prennent pas l'ancienne.
Donc, alors qu'ils ont utilisé, ils ont fait cotiser leurs clients,
le transporteur est de le reprendre.
C'est un discours européen aujourd'hui, avant que tout ça se mette en place,
Bon, voilà les nouveaux événements et ce qu'on peut dire. Donc, il faut s'attendre de toute façon l'an prochain à une hausse des tarifs pour combler les 100 000 euros qui manquent, soit à peu près, de mémoire, 10% du budget.
Et alors, il y a un autre problème, hein, c'est le problème des amortissements, puisque vous êtes obligé d'amortir le matériel et que, bon, comme les collectivités de 3,5. Vous êtes obligé de provisionner le fonctionnement sur l'investissement, ce qui vous grève le budget. Alors, vous êtes excédentaire en investissement, mais déficitaire en fonctionnement. Vous voyez le...
Mais ceci est un autre débat. Enfin, c'est un autre débat.
Oui, c'est un autre débat. Oui, j'en me donne une explication. Parce que c'en est une.
Bon, je rappelle que nous, pour clôturer le débat, je rappelle que nous, on était favorables à un passage, à un système à la levée, qui nous paraissait plus souple. Bon, finalement, ce n'est pas le système qui a été retenu à une courte majorité. Personnellement, vous connaissez mes convictions là-dessus. Je considère que le système actuel présente quand même de graves défauts. Et que ça aurait permis notamment d'interrompre, d'adopter système à la levée, la spirale dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Bien,
ça n'aurait rien changé, puisque le budget doit être fait pareil, avec le même
monde financier. Non, ça aurait changé des choses, on peut y revenir, dans l'appel d'offres, il y aurait eu des choses qui auraient changé. On aurait peut-être eu plus de réponses à l'appel d'offres, on aurait eu peut-être des choses moins chères, parce que le système à la levée est beaucoup plus répandu. Voilà, c'était.
C'est pareil, vous auriez eu, à partir du moment où vous n'êtes plus au poids, alors qu'on nous facture, le SMVO nous facture au poids, lorsqu'on est à la tonne.
Non, attendez, il vous facture une toute petite partie au poids, et le reste, ce sont des coûts fixes.
Non, pas une toute petite partie, tout le tonnage des organes ménagères. Et la part fixe, c'est l'incinérateur, c'est les déchetteries, c'est les camions des déchetteries.
Et ben, quand vous prenez ce qu'on paye au SMVO, c'est une petite partie.
Lorsqu'on paye, à l'époque on payait à peu près 100 euros la tonne au niveau de l'incinération, nous avions 3000 tonnes. Bon, alors évidemment, aujourd'hui nous avons 800 tonnes, le coût n'est plus le même. C'est évident que le coût n'est plus le même. Bon.
Allez, on reprendra ce débat.
Ce sont des convictions. On sait que le tonnage, et ça on peut reprendre toutes les études qui ont été faites en Belgique, en Allemagne, en fait, à la levée, on gagne 33%, à la pesée, on gagne 66%.
Mais on a peut-être moins d'inconvénients, on a peut-être moins de...
Vous perdez 1000 tonnes. Donc vous
reverrez
1000 tonnes, vous
perdez
100 000 euros.
Mais quand on va passer à l'arc, comment ça va se passer?
Michel.
Après,
ça va être facturé sur
les taxes
foncières.
On n'y est pas encore.
Peut-être, oui.
On verra. Je sais pas. Je vous propose d'aborder ce sujet un peu plus tard, un peu plus lors d'une autre séance. Oui. Non, mais c'est une vraie question. Mais je vous propose d'aborder ça un peu plus tard. J'ai quelques autres éléments encore à vous donner en titre d'information. Ça va être plus rapide que les déchets. Hein. Il faut savoir que au niveau de la commission locale de l'eau du bassin de l'Automne, cette commission s'est réunie et a donc validé les classements en zone humide, dont le classement en zone humide d'une grande partie de la main fermée. En dépit, nous ne sommes pas présents, nous ne sommes pas représentés en tant que commune à la commission locale de l'eau, c'est la communauté de communes qui est représentée, qui a voté contre d'ailleurs, avec quelques autres personnes, mais manifestement ça n'a pas suffi. Voilà, donc ça a évidemment des conséquences importantes pour nous, et je peux vous dire qu'il faut s'attendre, et heureusement qu'on a provisionné les fameux 300 000 euros, il faut s'attendre à rembourser la société IMC, qui avait une promesse de vente sur toute la main fermée. D'autant plus que, dans ce cadre-là, un malheur ne venant jamais seul, aujourd'hui, le conseil départemental a donc différé à un horizon que je ne connais pas, aujourd'hui, la réalisation de la déviation RN2-RN31, qui devait aussi, du point de vue de la main fermée, faciliter grandement le passage de l'Oise et donc l'accès à l'autoroute et à la CD 200. Oui.
J'ai revu le président du conseil général départemental la semaine dernière.
Oui.
Et donc, je l'ai sensibilisé, effectivement, la force de cette astrologie.
Oui.
Bien entendu, la partie RN31 et RN2 est différée. Cependant, il était assez d'accord avec moi pour étudier le barreau CD200 entrée de Béthisy.
Bon, alors on verra.
Hein, c'est il y a 8 jours. Alors je ne dis pas qu'il changera d'avis. Il a dit en fin de réunion que tout ça était assez cohérent.
Bon, voilà.
Donc, il n'a pas fermé la porte.
Il
n'a pas fermé la porte, bon. Alors qu'on avait dit tout est fermé. Bon, alors, il faut espérer, heureusement. Bon, ça fait 30 ans qu'on espère. Hein,
alors, le.
Il faut continuer.
Moi, j'ai eu le conseiller départemental délégué aux routes. Lui aussi, il ne ferme pas la porte, mais il dit bien que de toute façon, ça va reculer d'au moins 4-5 ans. Quoi.
Ah oui, je sais que de 4-5 ans.
Hein? Oui, enfin, pour l'instant, on nous dit 4-5 ans. Sujet suivant, enfin c'est des sujets importants hein, que je porte à votre connaissance. Hein.
Alors, ce qui est extrêmement grave, c'est effectivement au niveau du SRCE les zones humides. Et en tant que communauté de communes, il est bien évident que nous allons vers un retour au niveau du tribunal administratif. Parce qu'on ne peut pas laisser. Et on ne va pas être les seuls, puisque la Chambre de commerce devrait aussi nous déposer.
Vous savez, le SRCE et les zones humides, le SRCE touchait principalement les zones réservées pour la biodiversité, les zones humides, c'est plutôt l'agence de l'eau.
Oui, mais tout ça est repris dans le CNSRC. Ouais.
On est d'accord, mais c'est une décision de l'Agence de l'eau. En grande partie.
C'est monté à on a reçu des prospectus dans nos boîtes aux lettres, comme quoi qu'il y avait une société qui s'était installée là-bas, à la Mater, pas dans la zone de la Mater.
Non. C'est CDR qui est installé. Il est installé dans des locaux qui existent déjà. Et il n'est pas la main fermée, il est sur la route de Saint-Sauveur, au 3 bis ou au 3 de la route. 3 bis, route de Saint-Sauveur. Il est dans des locaux qui existaient déjà. Voilà, si vous permettez, je continue. Autre point. Donc on a eu une proposition, je m'apprête à signer la convention de partenariat, c'est pour des consultations juridiques gratuites. Alors ce serait une convention entre la commune de Verberie et l'ordre des avocats du bureau de Senlis. Alors cette convention ne nous engage pas à grand chose, elle nous engage simplement à leur ouvrir un local, ce serait la salle des mariages qui doit être assurée, il l'est déjà, et il viendrait effectivement une fois par mois. Le vendredi après-midi, le premier vendredi après-midi de chaque mois, ou si ce premier vendredi-là est férié, le deuxième vendredi de chaque mois. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui veulent avoir quand même un soutien juridique. Jusqu'à présent, il fallait qu'ils aillent à Senlis. Voilà. Oui, pour les divorces, je suis pas sûr que ce soit le cas le plus intéressant, M. Fleury. Bien. Et ça sera quand même une aide qui est attendue sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas forcément que des affaires familiales. Il y a aussi des tas d'autres affaires pour les personnes de Verberie qui jusqu'à présent devaient aller à Senlis pour le même service. Oui.